Il y a 10 ans, Oxford Frozen Foods s'installait dans la péninsule acadienne. En 2013, l'entreprise néo-écossaise débutait la construction de la plus grosse usine de bleuets au monde à Bois-Gagnon. Depuis, elle fonctionne à plein régime. Et aujourd'hui, on en discute avec le maire de la municipalité des Hautes-Termes, qui était à l'époque le député de Centre-Péninsule Saint-Sauveur, Denis Landry. Nous le retrouvons via le bout du fil. Bon mercredi, Monsieur Landry.
Bon mercredi, Yannick.
Tout d'abord, nous avons vu des images hier soir à Radio-Canada de cette annonce majeure qui aura changé la péninsule acadienne au niveau de l'économie parce qu'elle est maintenant une des plus grandes régions à travers la planète, rien de moins, où l'on produit des bleuets. Tout simplement, M. Landry, vos premières réactions 10 ans après cette annonce?
Lorsqu'on parle de production de bleuets, il faut identifier que c'est du bleuet sauvage parce que tu sais, il y a de nouvelles sortes de variétés sur le marché maintenant. Il y a le high bush qu'on appelle. Mm-hmm. Il y a d'autres sortes de bleuets là-dedans, mais spécifiquement, lorsqu'on parle d'Oxford Frozen Food, c'est dans le bleuet sauvage. Et puis, ce que ça a fait comme impact dans la péninsule acadienne, je peux vous dire dans le temps, c'est que ça a encouragé beaucoup de personnes à ouvrir des champs. En d'autres mots, on va ouvrir des champs, on va les mettre à la production. Et puis, lorsque c'est que l'usine sera en fonctionnement, on aura un endroit où vendre nos bleuets. Moi, c'est le même que je le percevais, puis c'est le même que je le perçois encore aujourd'hui. Maintenant, il y a de la compétition sur le marché. Il y a Oxford, comme tu l'as dit, si tu l'as si bien dit, là, c'est probablement un des plus gros acteurs ou un plus gros joueur au niveau mondial lorsqu'on parle de production de bleuets sauvages.
Au départ, la péninsule acadienne avait accepté parce qu'on avait promis des emplois. On allait changer le visage socio-économique, comme le disait le ministre des Ressources naturelles, Paul Robichaud, à l'époque. Est-ce que vous croyez que ce qui a été promis a été rendu dans la péninsule acadienne?
Donc, c'est dur à calculer la manière qu'ils calculaient le nombre d'heures employées. Il parlait à un moment donné de 300 employés. Maintenant, il y a des périodes de l'année, peut-être qu'il y en a plus que ça, peut-être qu'il y en a moins. Mais si on parle de tous les employés qui ont travaillé dans l'usine au fait de la construction, puis qu'est-ce que j'ai aimé du fait de la construction? Ben, c'est la compagnie de Tracadie qui avait pogné la structure de fer. L'asphaltage aussi, mais lorsqu'on parle du béton qui a été coulé sous ce gros édifice, c'est des gens locaux qui l'ont fait, puis des contrôles. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus, les gars de métier surtout, qui n'ont pas eu besoin de se déplacer dans l'Ouest ou dans le nord du Québec ou dans d'autres régions dans le monde pour essayer de gagner leur vie. Ils pouvaient quand même le faire localement. Et la construction a quand même pris 3 ans. Mais ce que ça a fait aussi, ça a porté beaucoup de producteurs de bleuets à se lancer dans cette nouvelle aventure-là, parce que ça fait longtemps que le bleuet existait dans la péninsule acadienne. Moi, j'étais petit gars, puis mon grand-père s'occupait d'une coop, de ça, il appelait ça la coop de Notre-Dame-des-Érables, Val-du-Sept-Trocheville. Cette coop-là faisait déjà affaire avec John Bragg dans le temps. Et j'ai quand même 65 ans, puis j'étais petit gars, ça veut dire qu'on peut parler de peut-être 55 ans passés, où il faisait déjà affaire avec les messieurs, là. Ça fait que, tu sais, c'était une industrie qui a décollé d'à peu près pas grand-chose, puis qu'aujourd'hui, tu sais, c'est rendu, à un moment donné, une des grosses industries de la production du bleuet ou la congélation du bleuet dans le monde. Mais il reste quand même que, si on parle au début de tout, là, je me rappelle, lorsque quelqu'un pouvait produire, si on parle de 1000 livres, 800, 900, 1000 livres, ou 1100 livres, ou 1200 livres par acre, c'était énorme. Aujourd'hui, ils produisent 8, 9, 10 000 livres alors. Imagine-toi, ça a été multiplié par 10. Puis les producteurs ont trouvé d'autres manières avec ces nouveaux venants-là dans l'industrie. Mais comment produire du bleuet? Je me rappelle quand j'étais jeune, ils brûlaient les champs. Aujourd'hui, ils appellent ça du flare mowing. Là. Ils passent là, puis ils tendent les champs, si tu veux.
Oui.
Ils ont trouvé des recettes qui travaillent merveilleusement bien. Puis le bleuet ici dans la péninsule acadienne, dans les régions, tu sais, on parle de péninsule acadienne, à Lorville, certaines régions là, dans ce coin-là, partout, là, près de la Miramichi, dans la région de Négouac, c'est grand, là, ça dessert grand. Et au moins, les producteurs de bleuets ont une place où vendre leur bleuet.
Vous mentionnez que depuis, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Allons droit au but. Quels sont ces hauts et quels sont ces bas depuis que l'entreprise a vu le jour dans la péninsule acadienne?
Ben, je me rappelle une année, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Yannick, mais les gens étaient venus à mon bureau lorsque j'étais député, puis il y avait eu un problème là, pour une entente de prix avec la compagnie. Je pense qu'ils essayaient de se former un genre de syndicat, un marketing board, pour déterminer le prix des bleuets. Puis ça n'avait pas fonctionné avec la compagnie, puis il y avait eu des personnes qui vendaient au Québec. Il y avait eu des problèmes, ils ne pouvaient plus trouver d'acheteurs là-bas, puis à un moment donné, ils étaient obligés de revenir pour la compagnie. Ils ont été obligés d'intervenir en tant que gouvernement, nous autres, dans le temps, pour essayer de demander à l'industrie, regardez, essayez de vous entendre avec les producteurs, puis acheter leurs bleuets. Mais tu sais, ils avaient laissé la compagnie une couple d'années passées, ils sont revenus, puis finalement, c'est arrivé à une entente, mais il reste d'autres faits. Et à un moment donné, on parle d'industrie du bleuet, le prix varie. Quand tu joues avec Mère Nature cette année, le prix était bas, mm-hmm. La production était là, mais le produit n'était pas de top qualité, dans le sens qu'il y a tellement plu cet été, il y a tellement mouillé, que le bleuet était plein d'eau, puis c'était facile à écraser. Les années que le prix est haut, puis cette année, on n'a pas entendu parler de grand-chose, parce que les gens connaissent quand même, c'est comme la pêche, c'est comme l'agriculture.
Rien de certain.
L'agriculture, c'est la même chose. À un moment donné, tu as des hauts et des bas, puis quand tu joues avec Mère Nature, des fois, elle est généreuse, des fois, elle est peut-être un petit peu moins, là. Mais cette année, elle était généreuse en pluie, qui n'a pas été nécessairement très favorable pour le bleuet. Et le prix était bas. Je pense que le marché était surabondé aussi, là. Fait qu'à un moment donné, s'il ne peut pas écouler dans le produit, il y a un surplus, puis quand il y a un surplus, ben, les prix pas là. On a connu ça dans d'autres secteurs, mais c'est quand je parle des hauts et des bas, c'est ça.
Et le but de ma prochaine question, M. Landry, n'est pas de vous mettre dans l'embarras, mais pour les gens qui manifestent présentement qu'il y a trop de champs bleuets dans la péninsule acadienne, notamment sur l'ancien camp militaire, qu'avez-vous à leur dire? J'imagine qu'on souhaite trouver un certain équilibre entre les deux.
Bien, disons que le champ militaire, c'est un pacte, ça appartient à la province. Ça veut dire que ça appartient au ministère des Ressources naturelles. Mm-hmm. Maintenant, il y a des ententes avec le ministère des Ressources naturelles et agriculture pour faire de la production de bleuets sur les terrains de la couronne. Est-ce que c'est la bonne place pour faire la culture? Puis je ne veux pas venir à la défense de Méga Bleu, là. Ben, pas Méga Bleu, mais je veux dire Oxford Frozen oui. Food. Mais Oxford Frozen Food n'a pas de terrain sur le chantier. Ben, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Oxford qui est en arrière de ça. Il y a d'autres compagnies qui sont en arrière de ça avec d'autres producteurs privés, mais je ne veux pas nécessairement défendre la compagnie, mais ben, on va mettre leur juste, là. C'est qu'eux autres n'ont pas de terrain là-dessus. Maintenant, est-ce qu'ils vont acheter des produits qui viendraient de là-dessus si un jour il y a une production qui se fait? Oui, ben, probablement oui. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, c'est tant que tu n'as pas d'acceptation du public pour faire des choses, c'est que les gens en arrière de Tracadie, je dirais que c'est un constat, là. Il y a beaucoup de terrain bleu qui s'est fait en arrière de là. Tu rentres dans la région de Tilleroad, Lord and Foyle, dans la région de plus par Saint-Sauveur. Il y a des énormes étendues de champs à bleu dans ces régions-là. Puis là, la région là-bas, eux autres veulent garder ça pour de l'écotouristique, c'est la pêche, la chasse. T'sais, moi, je parle pour moi-même, là, il n'y a pas tout à fait de tort. Je pense qu'à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de terrain comme développé. Il y a des producteurs qui ont sûrement des terrains qui ne sont pas tout à fait développés. Moi, ce que j'aurais un conseil à donner au gouvernement, à un moment donné, on va te donner d'autres terres, puis avant d'agrandir le territoire au niveau des bleuets, je demanderais de faire une recherche à l'agriculture et aux ressources naturelles pour voir comment d'arcs de bleuets, de terrains bleuets n'ont pas été développés jusqu'à maintenant, puis mettre un emphase là-dessus au lieu d'agrandir pour d'autres terrains. Mettez ceux-là en production, puis quand ça sera mis en production, on gardera ce qu'il y a à faire pour les années à venir concernant le chantier.
Intéressant comme point de vue, M. Landry. En terminant, plusieurs producteurs locaux ont maintenant peur de perdre ce qu'il leur reste parce qu'il faut l'avouer, l'entreprise Oxford Frozen Foods prend beaucoup de place sur le marché, beaucoup de champs ont été développés. Comment voyez-vous l'avenir pour ces producteurs locaux qui craignent de perdre ce qui leur reste depuis?
Mais ça, là, on appelle ça un peu un monopole. Puis si on parle de monopole, c'est un drôle de monopole, ça. À un moment donné, tu as le gouvernement, je ne veux pas faire de politique, mais tu as un gouvernement qui a accepté d'échanger des terres avec, c'était 15 612 acres, là. 712 acres, c'est proche, le chiffre est pas mal exact, mais qui a décidé d'échanger des terres avec Oxford. Du point de vue des producteurs, c'est qu'Oxford devenait acquéreur d'un grand nombre d'ancrages parce qu'il avait acheté une grosse portion de ces ancrages-là d'un privé. Ils ont été, puis ils ont échangé ça, eux autres, avec le gouvernement provincial du temps. Puis, ce que c'est devenu, c'est des arcs privés qui ont été échangés. Donc, le gouvernement a pris des terres qui étaient propice à l'agriculture du bleuet, puis ils l'ont transféré à Oxford Frozen Food, qui est en parle de 15 712 acres. C'est énorme. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous développés, les terrains? Je vous dirais, de ce que je sais, non. Mais il reste quand même un autre fait qui peut occasionner ce monopole-là. Quand les producteurs de bleuet, ceux qui n'ont pas de relève ou qui sont plus intéressés de continuer dans le domaine, ont des terrains à vendre, mais Oxford et acquéreurs ou d'autres compagnies peuvent faire la même chose, ou même d'autres privés qui ont les moyens d'acheter des arcs de bleuet qui sont déjà en production, parce que lorsqu'on sait que c'est peut-être plus profitable de faire ça de ce manière là, parce que produire du bleuet, c'est pas évident. Là. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu as besoin de cet argent-là pour manger demain, là, je vous rappellerai que produire du bleuet, à un moment donné, tu commences là-dedans, tu investis. Et 6-7 premières années, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Là. Ça commence juste peut-être à la 7e, après ça produit à toutes les 2 ans, puis dépendamment comment les gens font la rotation de leur champ. Là. Il y en a qui ont 100 heures, mais ils ont 50 heures une année, 50 heures l'année d'après.
Ouais.
Ils ont toujours une production. Mais il reste quand même, par voie naturelle, tu sais, le monopole, oui, c'est craignant un peu. Moi, j'anticipe que dans 10-15 ans d'acteurs, tu auras peut-être, écoute, tu vas en mettre beaucoup, là, peut-être 10-15 gros acteurs, au lieu d'avoir beaucoup de petits producteurs qui seront encore dans la game. Puis si le prix n'est pas nécessairement haut, là, tu parles de volume. Ça fait, si c'est un gros volume, je te donne un exemple, à 30-35 cents la livre, il n'y a pas d'argent à faire avec ça, ben mettons à 40-50, si tu as un gros volume, puis tu as 15 cents la livre de profit, mais il reste quand même, si c'est 1 million de livres à vendre, il y a un certain profit que tu peux y aller chercher. Fait que, t'sais, comment je te dis ça? L'offre et la demande, mais au niveau du monopole, c'est un petit peu craignant, puis ça se fait par voie naturelle. Et comme je disais tantôt, vu que les producteurs de bleuets n'ont pas nécessairement de relève pour certains n'ont pas nécessairement la santé de continuer, l'âge est là aussi, ils décident de vendre, c'est dur à arrêter, c'est une industrie qui, là tu parles d'une industrie privée, puis c'est l'offre et la demande.
Denis Landry, on voit que vous connaissez encore bien le dossier, maire de la municipalité des Hauteurs, mais ancien député de Centre Péninsule Saint-Sauveur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui avec ces 10 ans d'Oxford Frozen Foods qui s'installaient dans la péninsule acadienne. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de se reparler.
Merci beaucoup et bonne journée, Yannick.